Thank you, Madam Board Member.
Merci beaucoup. Oli Reich au micro. Tout d'abord, je me présente à l'heure, temps et en heure, c'est fantastique, merci beaucoup. Nous allons parler aux personnes qui sont en retard. J'aimerais présenter Larissa, directrice des initiatives stratégiques, vous la connaissez déjà, et nous allons parler du processus de l'analyse de l'ALAC. Vous en avez déjà entendu parler, mais on va faire le point, voir les prochaines étapes. Vous allez nous parler d'argent, je crois, Xavier, d'habitude, c'est ça ce que vous faites. Comment se procurer des ressources, voilà. Bon, Jane Wolf, qui était à la tête justement du GNSO, qui va nous parler un petit peu de ce que le GNSO a fait, son analyse, sa revue. Et peut-être qu'on aura le temps de regarder ces transparents. Mais merci beaucoup, Larissa, je vous passe la parole. Donc, merci à toutes et à tous. Merci de nous avoir invités. Nous allons parler donc de l'analyse de At-Large qui est bientôt prévue. Nous allons passer au transparent suivant. Donc, pour l'ordre du jour, nous allons couvrir le calendrier et les grandes étapes. Donc, je vais vous parler de la manière d'obtenir des ressources, des différentes activités. Nous allons parler également de l'envergure de cette analyse, processus de cette analyse que nous avons dans demande. Si nous avons le temps, et je sais que très ambitieux comme ordre du jour, nous pourrons parler un petit peu de l'auto-évaluation et formaliser certaines manières dont vous pouvez voir et analyser ce qu'il y avait eu lors des différentes analyses, différentes années. Donc, pour continuer à parler de cette révision, il y a eu une mesure du conseil d'administration qui a confirmé un calendrier plus lent par rapport à ce qu'on avait auparavant. Donc, la révision est vue pour commencer en avril 2016. Et donc, il y aura un examinateur indépendant qui sera en place à ce moment-là. Il y aura un groupe de personnes qui pourra commencer donc son travail d'analyse et de révision. D'ici là, nous nous préparons pour lancer donc le service de procurement, donc pour obtenir les ressources, processus d'actionnement, pourrions dire. Les prochaines activités, ce sera sur l'envergure donc du travail qui sera effectué. Donc, il s'agit là d'un point précis. Vous voyez, les dates sont un petit peu plus précises. Et j'aimerais beaucoup obtenir un retour sur ce que vous avez à l'écran au niveau du calendrier, voir si c'est réaliste de tenir ces dates et ce calendrier pour les différentes activités qui vont devoir se dérouler. Premièrement, nommer cet examinateur indépendant au mois de mars 2016, lancement de la révision en avril. Nous avons une feuille de route qui doit se conclure avec le rapport final en février 2017. Les activités clés qui vont se tenir dans cette période, ce sont des entretiens et les différentes parties prenantes. On va vous parler un petit peu plus de la méthodologie. Il y a le temps également que l'examinateur indépendant passe son travail d'analyse et donne des résultats préliminaires. Vous avez ensuite le rapport, l'ébauche de rapport, la publication du rapport pour la période de commentaires publics. Et à tous ces moments-là, vous aurez la possibilité pour l'examinateur indépendant d'avoir un rapport avec vous, des interactions avec vous pour s'assurer que l'examinateur indépendant comprenne bien la situation et que les données qui soient collectées soient factuelles et qu'il y ait un retour également, que ce soit absolument utile, que ça soit précis, ce travail d'analyse et de révision de l'ALAC. Ensuite, le rapport final, à la suite de la période de commentaires publics et l'analyse des informations qui seront revenues, le rapport final sera partagé avec le groupe de travail, donnera la possibilité au groupe de travail de prendre leur propre point de vue avant la publication du rapport final, comme je l'ai dit, en février 2017. Donc, Holly Reich, vous voulez quelque chose, peut-être? Oui, ma suggestion est d'attendre. Pas de questions. Est-ce qu'il y a déjà des questions ou pas? S'il n'y a pas... Oui, une question de Alan Greenberg. Oui, excusez-moi, j'étais un petit peu en retard. Vous l'avez peut-être déjà dit, mais le calendrier avant cela, avant cette date, est-ce qu'il y a des détails sur le calendrier avant cette date? Nous allons revenir au transparent précédent. Donc ça, c'est un calendrier qui n'est pas très précis, mais qui nous montre bien ce qui se passe avant le début de la révision, du travail de révision. Donc avril 2016. Donc d'ici avril 2016, on a cet appel d'offres qui se fait, ce système d'appel d'offres, et l'auto-évaluation également. Évaluer les recommandations de la révision qui s'est déroulée en 2008. Oui, ça, je comprends bien, Alan Greenberg, au micro, mais je crois comprendre que l'on va voir qui pourrait être l'examinateur et le connaître. Il faudrait parler également du concept, parler peut-être entre moi et Holly, un petit groupe, voir les soumissions, de pouvoir effectuer des commentaires là-dessus pour la sélection de l'examinateur, de la personne chargée de la révision. Oui, merci beaucoup, Alan. Aujourd'hui, nous sommes là pour revoir toutes les informations à notre disposition, les critères, en effet, pour l'évaluation et le choix de l'examinateur indépendant. Xavier est là pour nous parler de l'appel d'offres, du processus d'appel d'offres, et pour donner son point de vue également sur tous ces critères de sélection, sur tout le processus d'appel d'offres, pour assurer l'indépendance de cet examinateur. Très bien, passe au transparent suivant. Donc, je ne pense pas qu'on va passer beaucoup de temps là-dessus. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que ce serait donc la charte posée, le document de départ qui a été adapté, cette charte qui avait été utilisé pour la révision de la GNSO. Pour ne pas perdre de temps, ce que je proposerais, c'est que vous voyez ces éléments qui sont assez généraux et vous avez une ébauche de documents qui sera circulée pour préparer la prochaine réunion. Et au moment de cette prochaine réunion, vous parlez de cette charte plus en détail et adoptez cette charte. Mais ça souligne simplement les responsabilités de ce groupe, de travail servant de liaison entre les différentes communautés et l'examinateur indépendant, et avec la commission également sur l'efficacité des organisations, des organismes. Donc cela offre soutien, une direction à emprunter, et cela assure que le rapport sera précis et sera utile. Sur le prochain transparent, nous avons les différentes activités et les grandes étapes de ce groupe de travail. Donc, octobre-novembre 2015, on adopte la charte confirmant le calendrier, l'envergure du travail, les critères de la révision, les critères de sélection de l'examinateur indépendant, la méthodologie. En novembre 2015, nous avons l'évaluation initiale des recommandations de 2008, c'est ce qu'on appelle l'auto-évaluation. Ça, c'est au niveau interne. C'est vous qui faites une évaluation, une auto-évaluation des succès que vous avez connus et de ce qui devrait être modifié éventuellement. Les leçons que vous avez retirées depuis la révision de 2008. Holly Reich, et ce que je ferai à la suite de cette réunion, les personnes qui seront membres du groupe de travail, eh bien, on fera recirculer ces documents, on les regardera de près, pas à 8 heures du matin où on a un petit peu de mal à se réveiller, mais j'aurai besoin d'un retour aux environs de novembre. Louisa au micro. Donc, entre avril 2016 et juillet 2016, donc, collecte de données pour l'examinateur, entretien, interview. À la dernière réunion, nous avions parlé de cela. Les personnes de l'ALAC, de At Large, les organisations At Large, seraient sur la liste, il y aurait des entretiens qui seraient faits de ces personnes. Vous pourriez commencer à penser à cette liste, penser à une méthodologie également. Il faut y réfléchir. Comment appliquer donc les critères de sélection à l'évaluation des ALS? Il y a 230 ALS et lorsque l'examinateur indépendant va commencer son travail, on va devoir évaluer l'efficacité de ces organisations. C'est un échantillon dont on aura besoin. Le plus utile, ça devrait être la bonne approche, semble-t-il. Donc je ne veux pas tout vous dire, il y a beaucoup de choses, de documents. Je veux être pertinente dans mes propos et donner les points importants. Maintenant, je veux présenter Xavier Calvez, notre directeur financier, va nous parler du processus d'approvisionnement. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais me parler en anglais, ça sera plus pratique. En suivant. Donc, je vais vous donner les informations sur le processus d'approvisionnement en termes généraux. Cela s'applique à ce cas précis également, à la sélection d'un examinateur indépendant. Donc, très rapidement, ce que nous allons faire, c'est un appel d'offres. C'est donc des services. On va indiquer, nous avons besoin de ces services, qu'on nous rende ces services. Et vous pouvez faire un appel d'offres. Offrez vos services. Ce sera très ouvert. Et les prestataires de services pourront présenter leur devis. Un prix précis, il y aura bien sûr beaucoup d'informations qui seront fournies. Mais là, je vous donne un aperçu très général. L'IGAN conduit des RFP, des appels d'offres pour tous les projets où on dépense plus de 150 000 dollars. Il y a donc une limite près de 150 000 dollars. Ça permet de définir le nombre d'appels d'offres que nous avons, demande de proposition. C'est un seuil qui commence à représenter beaucoup de travail. Et nous voulons être toujours transparents. On veut utiliser des fonds publics d'une manière adéquate. C'est pour cela que nous avons ces appels d'offres. Vous connaissez les organisations commerciales? Très, très bas comme seuil. Les appels d'offres sont beaucoup plus importants et des sommes beaucoup plus importantes dans les entreprises. Nous, on est à un niveau bas, on a un seuil bas parce que l'on démontre, on garantit l'utilisation adéquate des fonds. Et là, ça, c'est un outil, ces appels d'offres. Il y a compétitivité. À quoi ça sert, un appel d'offres? Eh bien, ça sert à s'assurer qu'il y ait plusieurs personnes qui proposent leurs services. Et ça permet d'obtenir les meilleurs services au meilleur prix. Ça, c'est un des objectifs. Le deuxième objectif, c'est de soutenir fournisseurs indépendants et un processus de fournisseurs, de prestataires de services indépendants. Donc, c'est très public, défini avec des critères définitivement. Et ils seront évalués contre des critères, ces différents prestataires de services. Et ils seront choisis à la suite d'une évaluation par rapport à des critères. Et ils ne doivent pas être évidemment choisis parce qu'ils sont le cousin du cousin du cousin. C'est ce à quoi servent les appels et appels d'offres. Donc, quand c'est moins de 150 000 dollars pour les projets stratégiques clés, nous avons parfois des appels d'offres pour moins de 150 000 dollars. Pour des projets à haut risque, des projets très visibles, des projets d'intérêt public, des projets qui ont un impact fort sur la collectivité. Je vais vous en mentionner un que je connais bien, puisque je m'en suis chargé pour l'IGAN. Lorsque nous avons choisi de renouveler notre auditeur indépendant pour les aspects financiers, nous avons un commissaire aux comptes. Nous avons un audit qui est effectué. Un cabinet d'audit. Ça devait représenter moins de 150 000 dollars, cette analyse. Mais c'est si important de choisir ce commissaire aux comptes et le bon cabinet d'audit, tout à fait indépendant, que nous avons conduit un processus d'appel d'offres et ça nous a aidé à assurer que nous soyons très ouverts, que tout cabinet comptable puisse se présenter. On avait une liste de clercs, on avait une évaluation très claire, et nous avons choisi finalement notre auditeur, notre commissaire aux comptes. C'était en fait celui qui était le plus cher, mais ce n'est pas obligatoirement choisir le moins cher, non. C'est choisir le plus précis, le plus compétent pour les services à rendre. C'est environ 100 000 $ que nous avons dépensé, mais cet appel d'offres a été très nécessaire pour notre commissaire aux comptes, pour la vérification des comptes de l'ICANN. Donc, ça, c'est un modèle de gouvernance, mais en fait, nous avons les services juridiques, nous avons les services d'approvisionnement, les membres de l'équipe fonctionnelle avec ça, c'est elle qui nous a parlé ce matin. Eh bien, ça, ça soutient le processus de sélection d'un examinateur indépendant. Il y a donc des conseils de la part du groupe de travail, de la part de cette administration et de vous-même. Et vous avez ici les prestataires de services, les fournisseurs, qui répondent à l'appel d'offres dans le cadre des services d'approvisionnement et processus d'évaluation. Ils vont donc, en fin de compte, sélectionner un examinateur indépendant. L'équipe d'approvisionnement de l'ICANN a le travail suivant. On fait tout le temps des appels d'offres et à proposition, donc on a un cadre de référence très strict pour les critères. Nous avons beaucoup d'expertise. À ce niveau, nous allons recevoir la CAP de la part de des membres de cette équipe d'approvisionnement, des informations de votre part. Que devons-nous faire? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme expertise pour pouvoir conduire une révision efficace et indépendante? Holly Weiss. Oui, je crois que la grande question, c'est que nous sommes le groupe de travail. Ça montre à quel point il est important que nous tous, si on reçoit un retour d'information sur les critères, qu'on définisse bien ces critères. Nous avons un calendrier, on a parlé de octobre, novembre. Donc, en tant que groupe, nous devons avoir un ensemble de critères, pas tous les critères d'approvisionnement, mais les critères qui comptent, les critères les plus importants. Donc ça, ça va être le travail de cette équipe. Le calendrier nous indique qu'on a besoin de ce retour d'information, mettons, au mois de novembre, c'est ça ? Xavier Calvez, oui, tout à fait. Dans le processus, il est essentiel de bien définir les critères parce que les prestataires de services vont déterminer leur intérêt pour cet appel d'offres et dans leurs documents, dans leurs propositions, eh bien, ils vont expliquer pourquoi ils sont les plus qualifiés, pourquoi ils sont à même d'effectuer ce travail. C'est très important de ne pas rater cette étape, sinon ça va avoir un impact fort sur le reste du processus. Donc, regardez sur ce nouveau transparent. Donc, un point très important dans un appel d'offres. Ligne de conduite d'évaluation pour tous les objectifs. Obtenir la personne la plus qualifiée et obtenir un prestataire de service indépendant. Donc, il y a des règles très strictes de confidentialité qui s'appliquent au groupe dans le cadre du processus de sélection. Donc, ces règles de confidentialité qui s'appliquent à l'équipe de l'ICANN, avec le département juridique, avec nous, avec l'ARISA, eh bien, il y a toutes ces règles qui sont là, qui existent pour s'assurer que les personnes qui participent à la demande, à l'évaluation de l'appel d'offres, soient indépendants. Chaque année, nous signons un document sur les conflits d'intérêts. Est-ce que, éventuellement, j'ai un conflit d'intérêt avec cette entreprise parce que ma femme est membre du conseil d'administration? Conflit d'intérêt, ça peut être quelque chose de tout à fait légitime. Ça veut simplement dire que vous avez un rapport avec cette entreprise. Mais les membres du personnel de l'ICANN signent des documents sur les conflits d'intérêt chaque année. C'est très important qu'il n'y ait aucun conflit d'intérêt et que du début à la fin, vous ayez une intégrité totale du processus de sélection pour garantir l'indépendance des fournisseurs, en fin de compte, et d'une manière encore plus importante, être en mesure de démontrer les autres personnes, et ça veut dire à vous tous, il faut être bien sensible à cela, en dehors de At-Large. Tout le monde doit savoir que l'examinateur était indépendant, que ce n'est pas un copain, que ce n'est pas un ami qui va être vraiment très agréable avec vous. Non. Ça va être quelqu'un d'indépendant. Ça ne va pas être l'ami d'un ami. L'indépendance est absolument cruciale, est absolument essentielle. Nous sommes là pour vous aider en tant que personnel de l'ICANN. C'est un processus important. Vous voulez vraiment une opinion indépendante, une opinion franche sur... vous pouvez dire aux autres personnes en dehors de At-Large, en dehors de l'ALAC, qu'il y a eu une révision, un examen indépendant qui a été effectué de votre travail sur ces dernières années. Donc, il y a une petite équipe qui évalue les appels à proposition. L'équipe, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a des critères, il y a des appels d'offres d'un autre côté. On évalue contre les critères chaque appel d'offres et on donne une note. Vous avez répondu aux critères, vous n'avez pas répondu aux critères. Parfois, peut être de 1 à 5, noté de 1 à 5, chaque critère de ces appels d'offres, totalement aux critères, ne répond pas totalement aux critères. Ensuite, on résume cela pour chaque fournisseur et donne une note à chaque fournisseur, et celui qui a la note la plus élevée, eh bien, remporte le contrat. Donc, on l'a fait, par exemple, pour cet auditeur financier. On a choisi l'auditeur qui avait la note la plus élevée. Comme je l'ai mentionné, c'était l'appel d'offres le plus cher. Donc, ce n'est pas le prix de chaque proposition qui entre en ligne de compte, c'est par rapport aux critères, qu'est-ce qui convient le mieux, quel fournisseur externe convient le mieux. C'est là qu'on a besoin de beaucoup de confidentialité. Cette équipe travaille confidentiellement. Il y a peu de personnes qui ont lu tous les appels d'offres. Vous ne voulez pas, par erreur, ou pas par erreur, on donne des informations à un autre prestataire de service qui présente un devis. Très facile de faire des erreurs. Je vais vous donner un exemple de cela. Vous voulez téléphoner à quelqu'un, parler de ce processus d'appel d'offres. Mais lorsqu'on a des démonstrations, ça arrive, on nous fait une démonstration d'un service, par exemple. On a vu 20 démonstrations, 20 exemples précis pour une application, pour un logiciel. Lorsque l'on pose des questions à un prestataire de service, vous ne pouvez pas mentionner le nom d'un autre prestataire de service d'une autre entreprise parce qu'ils vont savoir que, ah oui, on est en concurrence avec un tel et je connais un tel et je connais ses forces et ses faiblesses et je vais changer mon appel d'offre pour pouvoir gagner justement mon contrat et le remporter. Donc là, vous introduisez un problème d'indépendance, un problème d'équité parce que ce fournisseur va faire en sorte d'indiquer qu'il est meilleur dans ses points précis que son concurrent Y. Il ne doit pas connaître le nom des autres concurrents. On ne doit pas savoir qui a proposé un devis ou une proposition, un appel d'offres. Donc tout doit être extrêmement confidentiel entre tous les prestataires de services. C'est seulement une fois que la sélection est terminée, que l'on fait son choix, que là... tout peut être public. Voilà le processus que l'on doit suivre. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent sur ce que je vous explique, Alan Greenberg?
Et deux questions. Vous avez dit que dans le cas de l'audit indépendant, vous allez sélectionner le meilleur total. Non. Il y a beaucoup de critères, d'espèces, parmi lesquels il y a le coût. Le coût est un des critères de sélection. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont importantes dans la sélection du fournisseur. Je ne parlais pas de coût, dit Alan Greenberg. Je vous demandais, est-ce que vous devez choisir le nombre... Voyons, soyons plus clairs, dit Alan Greenberg. J'ai participé à de nombreuses évaluations de RFP. Il y a des époques où... on ne formule pas les noms et les critères suffisamment et on finit par avoir des personnes qui répondent aux nécessités, aux critères des chiffres, mais qui ne sont pas adaptés. Je suis tout à fait d'accord, dit Xavier Calvet. Les critères et les points importants pour la définition, ce cette évaluation et cet exercice d'évaluation n'est pas toujours très précis. Donc, il peut y avoir des éléments qualitatifs qui sont très difficiles à évaluer en chiffres. Donc, la note est le seul élément, le seul outil que l'on a. Mais c'est un outil qui nous aide à comparer de manière sur une base équivalente les différents appels d'offres. Mais il y a d'autres éléments qui sont un peu plus objectifs parfois. Et c'est comme ça qu'on a une note de 4,5, 4 pour un autre fournisseur, mais il y a des avantages spécifiques pour celui 4 et par rapport à celui qui a 4,5 qui fait qu'on va choisir celui qui a 4. Mais on sait pourquoi, on va expliquer pourquoi. Pourquoi on a choisi celui-ci plutôt que l'autre qui avait eu, l'autre fournisseur qui avait une meilleure note. Cela est donc démontré. Merci, Diala. L'autre question, vous en avez parlé, mais je voudrais davantage de précision. Je pense qu'il est très important pour une partie très sélective d'une organisation à réviser d'avoir la possibilité de voir la réponse. Ne pas participer à l'évaluation. Non. Mais je vais utiliser les mêmes termes que j'ai utilisés lorsque j'ai posé cette question pour la première fois. J'ai fait plusieurs révisions, plusieurs appels à propositions de ce type. Et ce que vous avez dit, et ce que lorsqu'une personne est directement liée ou concernée par le processus, les comités de révision peuvent être manipulés. On peut créer des révisions, on peut créer des propositions qui ont l'air très, très bonnes. Et qui connaissent le sujet en lui-même peuvent reconnaître une faiblesse. Et quelqu'un qui ne participe pas au processus ne le voit pas. Toutes les personnes qui ont complété un RFP font de leur mieux pour que ça ait l'air correct. Et donc, ma sensation ici, c'est que cela vaut la peine. Moi, Holly, Cheryl, etc. Nous avons participé à un grand nombre de RFP et nous avons soumis des commentaires à l'équipe de révision. Et les réponses que j'ai obtenues du comité à l'époque étaient raisonnables. Selves reprend la parole. J'essaye de voir si j'ai bien compris ce que vous me dites. Ici, révision faite par les personnes que vous avez mentionnées, je n'ai pas très bien compris ce que vous voulez dire, ce qui pourrait arriver. Voyons, expliquez-vous un petit peu mieux. Alan Greenberg reprend la parole. Je ne suis pas très à l'aise ici pour entrer dans le détail. J'ai participé à une révision, une série de RFP au sein de l'ICANN, il y a 2 ans. Certains d'entre vous savent de quelle révision je parle. Certaines des soumissions disaient que certaines des personnes qui se sont présentées ont dit qu'ils avaient un niveau d'expertise que nous savions et qu'ils n'avaient pas. Parce que nous connaissions les personnes qui étaient donc révisées. Et donc, à ce moment-là, cette révision spécifique a été renommée. Ce type d'information aurait peut-être pu ne pas être à la disposition d'une équipe de révision un peu moins passionnée, un peu moins connectée dans leur travail. OK, je peux être un peu plus claire si vous voulez, mais en privé. OK, Xavier Alves reprend la parole. Vous avez parlé d'un processus de RFP qui n'était pas indépendant. Il aurait dû rester confidentiel. Ça n'a pas été le cas. Les fournisseurs, les personnes qui ont participé à l'appel d'offres n'étaient pas connaissées, étaient au courant les uns des autres. Les soumissionnaires étaient connus par des personnes qui étaient dans l'équipe d'évaluation. Alan Greenberg reprend la parole. Calves reprend la parole. Vous avez dit que les noms des soumissionnaires étaient connus. Et Holly Roach demande que cette conversation s'arrête, s'il vous plaît. Je voudrais répondre à cette question, dit Xavier, parce que le processus que nous proposons pour garantir l'indépendance ne permet pas qu'une personne à l'extérieur de l'équipe d'évaluation reçoive cette soumission et connaisse les noms des soumissionnaires. Sinon, on ne peut pas garantir l'indépendance du processus si quelqu'un dans l'équipe de révision voit l'appel d'offres. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Bien, nous continuerons cette discussion en privé. Merci. Je pense que nous sommes à la fin de ma présentation. Je voudrais m'assurer que j'ai mentionné toutes les étapes importantes. Et revenons au processus, s'il vous plaît. Une seconde. Hein. Je crois que... Oui, voilà. Ici, ce sont les différentes étapes auxquelles nous allons fournir des données sur les nécessités, sur les exigences. C'est très important. Tout le monde dans ce processus va dépendre de cela. C'est comme cela que nous allons évaluer les soumissionnaires, donc c'est un, ou les fournisseurs. Donc, c'est très important. Ce processus va ensuite passer à la préparation des documents qui seront publiés auprès des fournisseurs pour leur dire, voilà ce dont nous avons besoin. Et c'est sur cela que vous allez faire votre appel d'offres. Il y aura à ce moment-là la publication de ces documents sur notre site Internet. Si vous voulez faire votre appel d'offres, faites-le et nous allons recevoir en ce moment-là des questions de la part des fournisseurs. Et lorsque nous allons recevoir des questions des fournisseurs, nous allons nous assurer que nous allons donner la possibilité aux fournisseurs de poser des questions et les réponses à ces questions sont fournies à tous les fournisseurs, même aux fournisseurs qui n'ont pas posé ces questions. C'est pour s'assurer que tous les fournisseurs ont les mêmes possibilités, les mêmes informations. On ne peut pas donner une information à seulement un fournisseur, même si c'est lui qui a posé la question, et ne pas donner cette même information à un autre. On doit s'assurer donc une indépendance complète hein, de tous les fournisseurs qui participent à cet appel d'offres pour qu'ils aient tous la même chance d'utiliser cette information pour fournir une réponse. Donc, nous allons répondre à leurs questions. Les fournisseurs, les soumissionnaires vont préparer, vont soumettre leurs propositions. Hein. C'est le domaine des réponses. Hein. Ces propositions vont être ensuite évaluées une après l'autre, comparées les unes entre les autres. C'est là que la note va être donnée, l'évaluation va être faite. Et ensuite, un soumissionnaire hein, ou un fournisseur va surgir hein, suite à cet exercice et l'évaluation sera soumise au groupe donc consultatif, c'est-à-dire à vous, de façon à ce que vous voyez comment les réponses ont été données, comment ces personnes ont été évaluées. Hein. Donc, vous aurez mis les informations ici et vous recevrez les résultats ici. Donc, mais de nouveau, le point que Alain et moi étions en train de discuter, c'est cette partie ici. Excusez-moi. Cette partie ici hein, qui doit être extrêmement confidentielle. Cette partie, il n'y a pas de problème. Ça va être public. Ce document va être public. On peut... Le problème, il est publié. On va s'assurer que tous les critères sont bien exposés, bien liés. Je crois que ici, c'était le principal que je voulais, donc la partie principale que je voulais et vous expliquer. Est-ce que vous avez des questions? Sean, Alan, Eduardo ont des questions. Sean, vous avez la parole. Je voulais juste demander à Xavier, ce groupe consultatif posé de quoi ou de qui? Et mon autre question est à cette étape de position, évaluée ou d'évaluation. Je pense qu'il serait, devrait être facile de faire des propositions, de soumettre des propositions de manière anonyme, même si le contenu est diffusé, est connu. C'est très difficile. Vous avez besoin de l'identité de la personne. Xavier Calves, Calves répond. On peut effacer le nom de la personne, du soumissionnaire, quelque chose de possible, mais cela ne garantit pas l'anonymité. Et un contenu anonyme, Alain justement disait, parlait de cela. Il y a des logos. Lorsque le fournisseur dit « Je présente ces villes dans le monde entier », on comprend très bien. Hein, de qui il s'agit. Donc, une personne qui veut deviner peut le faire. Hein. Tout dépend de la façon, si les fournisseurs sont connus aussi. Hein. Si on a, par exemple, 9 firmes mondiales dans le monde, hein, notre critère était on voulait une firme mondiale. Il y en a 9, tout le monde les connaît. Quand on peut retirer le nom de la firme, retirer le logo, etc. Mais tout le monde qui s'y connaît un petit peu dans le milieu, il y a qui? Et donc, c'est difficile, voilà, justement. C'est cela la difficulté. C'est beaucoup plus difficile que cela n'en a l'air. Hein. Vous aviez une autre question, je crois. Oui. Alors, ce groupe consultatif, c'est vous, ici, le conseil. Et au niveau de ici du Conseil, l'organisation, le comité d'effectivité de l'organisation. Hein, c'est un comité qui va regarder donc le processus de mise en œuvre hein, et le niveau d'efficacité. Et Holly Rage, nous avons cette question sur notre wiki et nous, cette information, nous la connaissons. Nous l'avons, mais si vous voulez, on peut en reparler un petit peu plus. Alan, Eduardo et Sébastien veulent prendre la parole. Vous êtes dans la queue. Allez-y, Alan. Pour revenir un petit peu à la diapo précédente. Bien. Review impute required, c'est-à-dire les exigences de révision et contribution fournies, ou les informations fournies. Je présume que l'on ne va pas donner, on va fournir cela. Hein? Oui, tout à fait. Je ne peux pas... Je vous dis que c'est sur la prochaine diapo. Je ne peux pas le savoir, dit Alan. Merci. Eduardo, vous avez la parole. Bien, Eduardo prend la parole. Une question rapide. Si je veux soumettre une RFP et que je perds, est-ce que je peux vous faire un procès pour cela? Tout à fait possible, dit Xavier Calvez. Tout le monde peut faire un procès, hein, c'est pas de problème. Mais un fournisseur qui pense qu'il a été évalué de manière injuste ou non de manière injuste peut faire donc un procès à ICANN en disant que le fait qu'il a perdu de l'argent pour avoir été exclu d'un processus de RFP de manière injuste lui a fait perdre de l'argent. C'est un autre risque hein, que nous devons donc gérer en ayant un processus très confidentiel, un processus très clair avec des critères très clairs qui sont publics parce que comme ça on peut dire tout le monde savait ce qu'était ce processus. Nous avons offert des documents, nous avons documenté ce processus d'évaluation de manière... Et il n'y a rien hein, qui est resté à l'extérieur. On essaye de documenter tous les éléments de l'évaluation, hein, d'expliquer pourquoi ce critère était évalué de telle façon pour ce fournisseur. Et lorsqu'on met un chiffre, on explique le pourquoi de ce chiffre, on le justifie, on dit ce qui nous a mené au classement qu'on a fait au niveau des fournisseurs. Hein. Nous n'avons jamais eu ce problème hein. Auparavant. Nous avons eu seulement une fois un procès et nous avons pu démontrer que nous avions fait le processus correctement. Eduardo reprend la parole. Je pose cette question parce que si vous avez donc un procès, est-ce que cela annule tout ce processus? Si nous pensons, Xavier Calvez répond, et je voudrais le confirmer avec mon équipe légale, mais je pense que si l'on considère que l'on a procéder de manière adéquate au processus d'évaluation, nous pensons que nous avons les fournisseurs adéquats pour nos services. Donc, si les circonstances pourraient faire que ces réponses soient différentes, si c'est un fournisseur très connu, s'il y a des informations qui ont été... S'il y a eu une perte d'information dont on nous accuse, à ce moment-là, il faudra peut-être faire une investigation et cela pourrait donner lieu à un besoin de... Il faudrait peut-être stopper le processus, hein, bloquer le processus. Sébastien, vous avez la parole et soyez vite, rapide, s'il vous plaît, parce que nous avons peu de temps. Nous sommes légèrement en retard. Sébastien, une question. Est-ce que c'est une réunion ouverte des membres du groupe de travail? Non, je demande maintenant, est-ce que c'est une réunion ouverte du groupe de travail? Je ne demande pas cela. Je demande si cette réunion ici est une réunion ouverte. OK, bien. Donc, s'il vous plaît, Holly, lorsque vous répondez à Sean, il doit savoir tout cela à propos de cette question. Vous savez, mais comme nouveau membre d'ALAC, il ne sait pas ou il peut ne pas savoir ce que vous dites, que nous savons. Donc, j'aimerais bien qu'avant tout, on ne réponde pas à ce groupe comme un groupe de travail. On ne parle pas comme d'un groupe de travail parce que nous ne sommes pas un groupe de travail. Nous sommes une réunion ouverte avec des gens qui viennent du groupe de travail de l'extérieur. Et ensuite, soyez gentils avec tous les gens dans cette salle qui ne savent pas, qui posent des questions sur un processus pour apprendre. Nous sommes ici pour cela. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que je vais partir maintenant, mais je sais que j'ai des amis qui vont participer à cet appel d'offres et je voulais être sûre que l'on ouvre largement nos bras à tous les nouveaux participants d'ALAC et dans cette réunion. Merci Sébastien. Et dit Holly Reich, à la fin de cette réunion, il va y avoir un lien que je vais vous donner qui va indiquer qui va répondre à toutes les questions que Sean a posées. Notre dernière diapo donne les liens et pour donc le wiki où vous trouverez toutes ces informations. Larissa reprend la parole. On pourrait passer à la diapo 16, s'il vous plaît. Ce serait utile pour regarder un petit peu quels sont les standards et les critères de sélection utilisés pour répondre un petit peu à ce que disait Alain. Voilà les critères standards qui ont été utilisés lors des révisions préalables et c'est le point de départ ici. Et cela nous permet de préciser ces critères de sélection. Et c'est de cela que nous voulons parler. Donc, je vous invite à regarder un petit peu ces catégories de critères et à regarder s'il y a quelque chose qui vous paraît manquer ici. Et si vous pensez que vous avez des suggestions à nous faire ou des idées à nous proposer sur la façon dont on pourrait donc classer ses connaissances, ses expertises. Il y a des preuves de connaissances et d'expertise qui, à votre avis, devraient être incluses dans les critères de sélection pour garantir que l'acteur indépendant qui sera sélectionné aura les qualifications appropriées. Dites-le-nous. Je voudrais aussi ajouter que ce comité s'est réuni hier. Il a discuté au cours de cette réunion les limites pour les examinateurs indépendants, pour qu'ils puissent réaliser plusieurs révisions, vu les cycles de révision qui existent et qui sont mis en œuvre. Donc, je pense que nous allons entendre parler de ce problème de limitation pour les examinateurs. Je pense qu'il y aurait ici l'occasion pour de nouveaux examinateurs indépendants pour présenter de nouvelles opinions sur ces processus de façon à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes fournisseurs qui fassent les révisions tout le temps. Voilà, ce sont les éléments dont nous avons parlé hier lors de notre réunion. Est-ce que vous avez des réflexions, des questions concernant ces catégories de critères? C'est ce que Xavier a dit qui serait donc ajouté dans le RFP lorsqu'il sera présenté. Ce sont les informations auxquelles l'examinateur devra répondre pour démontrer, pour expliquer pourquoi ils sont qualifiés et comment, dans quelle mesure ils sont qualifiés. Holly Reich reprend la parole. Merci, Larissa. Et cette diapo est très importante parce que nous devons présenter ce type de détails, non seulement par rapport aux critères généraux, mais aussi si nous avons d'autres catégories qui, à notre avis, pourraient être utiles dans la révision pour obtenir le type de réponse que Alain voudrait avoir, par exemple. Je pense que on peut commencer donc à réfléchir sur cette diapo numéro 16. Quelles sont les qualités et les compétences que l'on demanderait à un examinateur? Ensuite, commencer ici, parce que je pense que cette diapo nous donne le détail de tout le reste. C'est quelque chose donc qui va nous être. Alissa reprend la parole. Je pense que nous sommes en retard. Je suggère, et on en a parlé déjà avec Holly, qu'il y ait un appel prévu dans les prochaines semaines, de façon à ce que tout le monde ait la possibilité d'y participer et de se reposer un peu après la réunion d'ICANN. Et l'ordre du jour pour cet appel pourrait être ces points spécifiques qui sont les critères de sélection, la méthodologie pour la révision et les critères pour la révision. Toutes ces informations sont disponibles sur les diapos que j'ai présentées. Je m'excuse, je suis un peu en retard. Je n'ai pas pu vous parler de tout cela dans le détail, mais nous allons nous assurer que vous puissiez avoir accès aux notes, aux liens et à ces informations, et de façon à ce que tout le monde puisse être au courant et discuter lors du prochain appel ces différents éléments très importants et sur lesquels nous devons donner notre avis. pendant le mois de novembre, donc qui serait le mois de préparation pour cette RFP, hein, que nous voulons, donc notre système devrait être prêt le janvier et dans sa totalité. Il y a des questions pour Larissa avant de la laisser partir. Les diapos de Xavier vont être placé sur la page Wiki à votre disposition. Il y a aussi une liste des membres du groupe de travail, les personnes qui ont dit qu'ils voulaient participer à ce groupe de travail il y a quelque temps. Je vais demander à tout le monde maintenant, si votre nom est sur cette liste et si, en regardant ces diapos, vous avez pensé que vous n'aurez pas le temps, que vous n'êtes pas intéressé ou quoi que ce soit d'autre, s'il vous plaît, hein, dites-le-nous. En tout cas, nous avons besoin de savoir quelles sont les personnes qui veulent continuer à participer à ce groupe de travail. Nous allons organiser des appels dans les semaines à venir et donc les personnes qui contribuent, continuer, hein, à le faire et essayer de donc analyser la méthodologie, les critères, etc. pour pouvoir participer à ces téléconférences et de ce groupe de travail. Merci beaucoup. Oh, yeah. Alan's here.